suis qu'un grain de poussière. Un grain de poussière qui colle à tes bottines, qui bloque la machine, qui fait d'une ville un désert. Un grain de poussière, un fils de la terre et du vent. Un grain de poussière, perdu comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air. Un grain de poussière, un fils du soleil et du vent.
Jacques Higelin, je ne suis qu'un grain de poussière. Alors, bonjour, autour des micros aujourd'hui, Daniel.
Bonjour André.
Patrick.
Bonjour André.
Aujourd'hui, la Fédération de la Libre Pensée du Nord accueille Jean-Yves Méraud.
Bonjour.
Bon, les livres parlant d'athéisme étant très rares, je dirais actuellement, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui donc Jean-Yves Méraud, qui vient de publier en décembre 2013 aux éditions L'Harmattan un petit ouvrage qui s'appelle « Debout les athées de la Terre pour une place légale de l'athéisme ». Donc bonjour Jean-Yves, peux-tu nous rappeler un peu ton parcours et l'histoire de cet ouvrage, dans quelles conditions tu l'as écrit?
Mon parcours est assez simple, je suis, comme je le dis dans la couverture du livre, un enfant de l'après-guerre et de mai 68. J'ai eu une enfance intoxiquée par le catholicisme et dont je me suis guéri très très jeune pour devenir athée, convaincu, pas radical, mais convaincu et bien ferme dans mes opinions. J'ai été particulièrement choqué en août 2012 par toutes les campagnes sur le mariage pour tous, plutôt contre le mariage pour tous, de tous les arguments qu'on a pu entendre et la présence des religieux. Comme journaliste, je suis aussi, j'ai une lecture un peu critique des journaux, où je m'aperçois que les journaux sont très complices des religions. accorde une très grande place à la religion et peu de place à l'athéisme. Donc ça m'a conduit en août 2012 à écrire ce qui n'est ni un essai philosophique, ni je n'ai pas cette prétention-là, plutôt un essai politique et plutôt une prise de position, un pamphlet. Donc il y a sans doute certaines imperfections et philosophiques et historiques, mais c'est la loi du genre. Donc j'ai écrit ça en 15 jours de temps en bricolant, parce que moi quand je bricole j'écris. Et après, quand l'armatan m'a fait le plaisir de l'accepter, il y a un an de travail dessus pour améliorer l'écrit. Mais l'essentiel du travail a été fait en 15 jours. Après, ça a été allongé, agrandi. J'ai cherché des notes, des explications, des bibliographies. Mais c'est un coup de cœur, c'est un coup de haut le cœur.
Un coup de gueule. Nous avons la chance d'avoir donc un philosophe avec nous, donc avec Patrick, qui a lu ton livre et l'a analysé, qui a quelques questions à te poser. Donc Patrick, je te passe la parole pour la première question.
Il va me faire passer le supplice de l'Inquisition.
à Jean-Yves, voilà, à toi.
Non, certainement pas le supplice de l'Inquisition.
On n'est pas équipé dans les studios.
Voilà, qui avait été réservé malheureusement à Giordano Bruno, hein, chacun le sait, hein, qui a terminé en 1600 sur le bûcher du Campolo Fiori, hein, de la Place des Fleurs, à Rome. Non, disons que c'est tout à fait intéressant d'avoir un ouvrage sur l'athéisme. Malheureusement, il y en a très très peu. Ce qui est intéressant, c'est pouvoir, d'une part, voir les propositions qui sont faites, et sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, mais aussi un examen de la situation, quoi. Néanmoins, dans ce que tu avances, tu dis plusieurs fois que les athées sont peu organisés, alors que, bon, précisément, la libre pensée, c'est la tentative, c'est non seulement la tentative, mais la réussite de l'organisation des athées, quoi. Disons qu'il y a des associations athées dans plusieurs pays, bien entendu. Et donc, peut-on vraiment dire que tout athée est un individualiste? Et y compris, doit-on valoriser l'individualisme sur ce plan? Autant nous défendons l'individualisme, c'est-à-dire la possibilité pour chacun de faire ses choix de tous ordres, y compris sur le plan métaphysique, religieux, etc. Mais autant, je pense que si nous sommes présents, c'est grâce à ceux qui se sont organisés pour arracher les lois qui ont permis les libertés d'expression, de réunion, de pensée, d'expression, qui sont loin d'avoir été données par ceux qui ont combattu pendant des siècles. Comment vois-tu ce lien entre athéisme et organisation? Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus?
Oui, c'est tout à fait juste. C'est effectivement, on peut se demander pourquoi j'écris ça, mais la démarche philosophique de l'athée est individuelle, c'est pas une église qui va le convaincre, il n'y a pas d'organisation structurelle comme les églises, comme toutes les églises le font, que ce soit le judaïsme, que ce soit les catholiques, les protestants, les musulmans, les bouddhistes, il y a une hiérarchie, il y a une structure officielle. Qu'il y ait des associations athées, je le sais, je les connais, mais c'est pas le même fonctionnement du tout. Vous êtes des militants, les militants ont arraché la liberté de penser, parce que ce n'était pas acquis d'avance, parce que ça fait quand même plusieurs millénaires, voire au moins 2000 chez nous, que les organisations empêchent la liberté de penser. Donc ça, effectivement, il est fondamental qu'il y ait des contre-pouvoirs. Mais l'athée, dans sa tête d'athée, est solitaire. Sa réflexion, il se la fait tout seul. Vous n'allez pas démarcher les gens comme le font les témoins de Jéhovah qui frappent à ma porte pour dire « soyez athée demain ». Ça se passe tout à fait différemment. Il n'y a pas de couvent, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de réunion, il n'y a aucune structure. Et la démarche, pour moi personnel, mais pour beaucoup d'athées, la démarche est une démarche essentiellement individuelle, où on réalise un jour, quand on a été élevé dans une religion, on réalise un jour que tout ça, ce sont des inepties, que l'au-delà est une vache de farce, et toutes ces choses-là, c'est pas des prêtres ou athées qui viennent le dire aux autres, c'est bien des démarches individuelles, et structurellement dans l'État, il n'y a pas de représentation athée, à ma connaissance, qui soit reçue à l'Élysée, et qui alors que vous avez des députés catholiques qui interviennent à la Chambre des députés avec la Bible à la main. Alors là, il y a peut-être une faute des athées de ne pas s'organiser suffisamment ou de ne pas rejoindre vos organisations et de rester individuel. Mais chez l'athée, il y a une grande part de l'athée est libertaire souvent en même temps. Il est anard, il est individualiste lui-même. Donc il ne rejoint pas vos organisations non plus spontanément, si j'ai répondu un peu à la question.
Oui, disons que la religion, c'est d'abord la religion des autres. C'est pour cela qu'elle fait tant la guerre. L'athéisme, c'est d'abord une affaire personnelle, c'est pour ça qu'elle nous fiche la paix. C'est pour ça qu'on entend aussi peu parler des athées, hélas. Mais...
Ça, c'est un extrait du livre de Jean-Yves.
Et c'est pour ça que le livre n'est pas un essai philosophique, c'est bien une prise de position pour dire aux athées, remuez-vous un peu les fesses et unissez-vous, donc rejoignez la libre-pensée, rejoignez qui vous voulez, mais montrez que vous existez. Actuellement, dans tous les débats de société, les athées sont absents. Les journaux n'en parlent pas, personne n'en parle. Et actuellement, seules les religions parlent. Si on voit sur l'avortement en Espagne, ou si tout ce qui se passe actuellement, les religions prennent sacrément du poil de la bête, si je puis dire.
Oui, alors après, est-ce que c'est parce que les athées sont absents, ou c'est parce que, tout simplement, on leur donne pas la parole, parce qu'il y a des choses curieuses dans les médias?
Donc, oui.
Je dis ça.
Non, mais le rôle de la presse est particulièrement ambigu, parce que la presse se sert des marronniers, des sujets qui sont faciles à faire. Donc on va faire des photos d'automobiles qu'on baptise à la Saint-Christophe sur le parking de l'Anversart. Ça, on l'a vu encore dans la Voix du Nord, pour ne pas la citer, cet été. Mais ça se voit dans tous les journaux, même Libération, même les grands quotidiens. Dès qu'il y a un événement comme le grand sacre des deux papes, toute la presse était là. Les GMJ ont été couverts par le service public d'une manière absolument scandaleuse.
C'est vrai qu'une organisation comme la Libre Pensée est rarement invitée sur les plateaux de télévision ou même à la radio. Bon, Patrick, tu voulais, je crois, poser une autre question à notre invité.
Non, c'est la poursuite de la même. Je ne pense pas qu'honnêtement que l'athée efficace soit anarchiste. Parce que je pense au contraire que c'est grâce à la réflexion sur l'État, par le biais des athées, je pense au traité théologico-politique de Spinoza, par exemple, c'est grâce à cette réflexion-là qu'on est parvenu, au moins dans notre pays, et provisoirement, rien n'est jamais gagné définitivement, ça peut être reconquis, qu'on est parvenu à casser ce qu'on appelle le cléricalisme, c'est-à-dire les religieux au pouvoir, qu'on est parvenu à une séparation des églises et de l'État. Certes, et ton livre en témoigne, tout à fait imparfaite, puisque... Regarde, tu viens de le dire, en Espagne, il y a des régressions. La loi sur l'avortement, etc. Puisque en Pologne, les cléricaux...
En France, on n'en est pas loin. Parce que tous les discours qu'on a entendus, il y a quand même un fond dans la société française, une minorité agissante, minorité, parce que les catholiques, ce sont quand même que 35%. Et chez eux, la minorité donc, est vraiment une minorité, celle qu'on entend. Parce que la majorité des catholiques, comme des protestants, comme des juifs, sont assez loin de leur religion. Mais tous les fondamentalistes catholiques, s'ils sont une poignée, on n'entend qu'eux.
Mais néanmoins, il me semble que ce n'est pas l'anarchisme qui est la réponse à la protection.
Je ne dis pas que l'anarchisme est
la
réponse.
C'est la réflexion sur l'État. Il faut un État laïque, qui soit véritablement laïque et pas le laïque d'aujourd'hui.
C'est
d'ailleurs qui est falsifié, comme tu le marques très bien avec ce qu'ont fait les ministres des cultes et tout récemment.
C'est pour ça, un athée est libertaire, quelque part, pour moi. Enfin, moi, je le suis, mais je ne suis pas. Je dis d'ailleurs, dans le bouquin, il faut restaurer la gauche athée laïque et républicaine. Donc, la notion d'État est importante. L'État protège tout le monde. L'État est quand même le protecteur et le garant de la liberté. C'est pour ça que je vais peut-être anticiper sur une de tes questions. J'en viens à la notion d'État athée, parce que... Alors j'emploie le mot athéisme d'État quelque part, mais qui n'est pas tout à fait exact. C'est l'athéisme d'État sous-tendrait qu'il y aurait une religion d'État qui serait l'athéisme. C'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses. Pour moi, l'État athée, c'est un État qui n'a aucune référence à une déité, à une transcendance, à une religion ou à une morale religieuse. L'État tient son essence du contrat social, il tient son essence d'un accord entre les hommes, il tient son fonctionnement des hommes, de la liberté des hommes de s'associer et de réfléchir ensemble. Il ne peut pas tenir, comme l'a prétendu Sarkozy, comme le prétendent beaucoup de gens, que l'État français serait lié de facto à une religion dominante. Si on lit l'État français une religion dominante, on exclut les autres en plus. Un discours paradoxal pour les religions qui se veulent tolérantes, soi-disant. Donc la notion d'État athée, L'athéisme d'État, c'est une variante, parce qu'on peut dire que l'État ne peut être athée que si l'athéisme est affirmé quelque part dans les structures, comme garant de la liberté de tout le monde. Mais l'athéisme d'État ne peut pas exclure les religions et le droit d'avoir une religion. C'est fondamental dans la laïcité que chacun exerce sa religion, à condition que cette religion ne vienne pas empiéter sur celle des autres, sur le fonctionnement de l'État. Et actuellement, depuis quelques années, on peut même parler des chrétiens de gauche si on veut être un petit peu méchant avec tout le monde. Mais c'est surtout la droite qui a l'apanage de la religiosité ambiante et qui essaye de confondre pouvoir et religion pour asseoir dans la vieille logique de l'État de droit divin. La droite essaye de faire croire que la religion est intrinsèque à l'État et que son pouvoir à elle est donc supérieur à ceux des autres parce que la droite est religieuse. C'est ça ma notion d'État athée. Qui est assez mal comprise d'ailleurs, j'ai peut-être pas dû assez bien l'expliquer dans le bouquin, mais encore une fois, c'est un coup de cœur.
Bon, après... La droite aime bien les religions, il y a aussi la religion de la finance,
oui.
Et de la dette. la bourse, il y a...
Et Dieu vous rabatte surtout au centuple au-delà, donc on peut...
Voilà, la bourse, on entend des gens comme si c'était l'oracle de Delphes qui nous parle de la bourse. Demain, on va faire plus X%. Ils interprètent les messages des marchés financiers. On n'entend que ça.
Ils ouvrent les entrailles des traders, ils regardent ce qui se passe dedans.
Ça serait bien. Ça, par contre, ça serait bien.
Bon, donc, je vous propose peut-être une petite pause musicale. Donc là, Jean-Yves, quel titre souhaiterais-tu?
Un petit Jacques Brel.
Un petit Jacques Brel.
Allez, c'est parti.
Ça fait quand même partie de mes références personnelles.
Un jour le diable vint sur terre. Un jour le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable, il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, là-bas. Et là-bas, on avait fait un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Ça va. Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre. Ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre. Ça va. Les trains déraillent avec fracas parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales. Ça fait des morts sans confession. Des confessions sans rémission, ça va. Rien ne se vend, mais tout s'achète. L'honneur et même la sainteté, ça va. Les états se mutent en cachette. En anonyme société, ça va. Les grands s'arrachent les dollars venus du pays des enfants. L'Europe répète l'avare dans un décor de 1900. Ça fait des morts d'inanition et l'inanition des nations, ça va. Les hommes, ils en ont tant vu que leurs yeux sont devenus gris, ça va. Et l'on ne chante même plus dans toutes les rues de Paris, ça va. On traite les braves de fous et les poètes de nigauds. Mais dans les journaux de partout, tous les salauds ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens. Ça va, ça va, ça va, ça va.
Jacques Brel, le diable, ça va. Vous écoutez Radio Campus Lille.
Jean-Yves, à la page 63, donc, tu nous dis que l'emploi du terme séparation des églises et de l'État, c'est encore reconnaître les églises. Il me semble que la loi de 1905, c'est précisément la connaissance des églises, parce que bon, il faut bien un minimum de la part de l'État de connaissance, dans le sens que peut-on autoriser telle ou telle procession, y compris le problème des aumôneries à l'armée ou dans les hôpitaux, pour ceux qui le souhaitent. Bon, mais ça, c'est la connaissance et non pas la reconnaissance. Parce que disons que pour la reconnaissance, il me semble que c'était les subventions publiques. Or, normalement, séparation des églises et de l'État, c'était connaître, mais non reconnaître, et donc la fin des subventions publiques, sauf problème des aumôneries dans les endroits clos.
Oui, oui, justement, l'article 2, enfin, je le cite de mémoire, mais c'est « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte hein. ». Donc, c'est bien un problème de reconnaissance, de subvention qui est là derrière. Donc, je laisse Jean-Yves répondre.
Oui, à question compliquée, réponse simple. Non, il y a le contexte de 1905 qui était un contexte dur, parce qu'il fallait que les athées se fassent reconnaître, eux, à l'époque. C'était la démarche inverse. La loi de 1905 reconnaît aussi le droit de ne pas être religieux. S'il reconnaît les religions, il reconnaît le fait de la non-religion. C'est ce qui est important dans la loi de 1905. Mais moi, quand je parle de reconnaissance des religions, c'est sur un plan politique. Dire maintenant qu'il y a un ministre des cultes, c'est reconnaître qu'il y a des cultes. Or, pour moi, le culte, c'est vraiment une affaire tellement privée qu'il n'a pas à déborder dans des processions sur la voie publique, qu'il n'a pas à être présent dans des quantités de choses, que l'homme politique n'a pas à être à un enterrement religieux dans l'église, il doit rester à la porte. Donc, la loi de 1905, elle reconnaît quand même les religions en tant qu'acteurs de la société politique. Et la religion fait de la politique sans arrêt. Et moi, je fais de la politique aussi en disant que l'athéisme, c'est aussi un acte politique, ce qu'il ne fait pas assez. La question se pose donc, est-ce que les athées doivent s'organiser ? On revient à la question de tout à l'heure, mais question qui m'est souvent posée. Est-ce qu'il faut une organisation athée qui soit à côté du ministre des cultes ? Je l'écris dans le livre, parce que le ministre doit être le ministre des cultes et de l'athéisme. L'athéisme étant là un culte, ce qui gêne énormément d'athées. C'est une question extrêmement compliquée, mais la loi de 1905, elle est peut-être plus tout à fait claire dans le contexte de la société actuelle. Elle reconnaît les cultes à côté de l'État, dans l'État, et elle ne reconnaît pas l'athéisme, elle ne reconnaît pas les... C'est un peu ça que je voulais dire. C'est leur faire trop d'honneur encore d'avoir un ministre des cultes. En Alsace, on continue de financer. Il y a le Concordat quand même. Il ne faut pas oublier le Concordat. Il ne faut pas oublier un certain nombre de choses comme ça qui font que la place n'est pas claire actuellement. Les cultes, ça, c'est affaire privée. Ils ont des lieux de culte, grand bien leur face. Ils y entrent, ils en sortent. Mais une fois qu'ils en sortent, ils sont dans l'État neutre. Et l'État doit rester totalement neutre. Quand je vois Manuel Valls aller canoniser les papes, c'est pas supportable. Et quand je vois Manuel Valls aller devant le CRIF avec une kippa, c'est pas supportable non plus. Manuel Valls, homme d'État, est un homme neutre d'État athée. Donc Manuel Valls, même s'il est croyant, ou j'en sais rien s'il est croyant ou pas, mais il doit être athée dans son comportement. C'est-à-dire qu'il doit être sans religion, sans Dieu. Et l'homme politique, c'est très dur pour l'homme politique. C'est pour ça que ce livre est un livre politique. C'est une prise de position politique. C'est pas une prise de position philosophique. L'homme politique doit être totalement neutre. Donc, dans sa tête, il peut avoir des croyances, il peut avoir une morale, il peut avoir des choses. Mais dans ses actes politiques, il doit être d'une neutralité absolue. Et quand il va à la Chambre des députés, il n'y va pas comme chrétien, il y va comme législateur qui réfléchit. Le député est un législateur, donc un homme qui fait du droit et pas un homme qui fait de la religion. Est-ce que j'ai répondu à ta question ?
Oui.
Ceci dit, on l'a entendu beaucoup... Je ne sais pas si on peut prononcer le mot, crier la laïcité, enfin pour la démolir, mais on n'a pas les passages là, on vous en passera dans nos autres émissions, mais c'est hallucinant le ton qu'il prend.
Oui, c'est là, oui.
Il y a une grande ambiguïté sur la laïcité actuellement, elle est à toutes les sauces, c'est pour ça que c'est le pourquoi de ce livre. Ce livre, c'est pour dire que l'athéisme, c'est une réalité de la société qui n'est pas prise en compte. Même s'il y a la libre pensée, même s'il y a plein d'organisations, même il y a des sites internet, athéisme international, athéisme.org, athéisme.free, quand on tape, on trouve des choses. Mais c'est des choses qui sont morcelées. Alors, faut-il une organisation athée ? C'est une autre question que je n'ai pas abordée dans le livre, parce que c'était ça, là, chacun est libre. Et pour revenir à la question sur le libertaire et l'anarchisme, c'est tellement individuel la démarche de l'athéisme, vu qu'il n'y a pas de culte, vu qu'il n'y a pas d'église d'athée. Est-ce qu'il faut faire comme en Angleterre, prendre des églises et y faire des cultes athées le dimanche ? Moi, je n'en suis pas persuadé. Personnellement, je n'irai pas. Certains le souhaitent. Donc, il y a dans la mouvance athée des quantités de choses. Est-ce qu'il faut envisager, effectivement, qu'il y ait une organisation athée qui représente les athées dans les actes législatifs ? Vu l'ambiance religiosisante actuelle, c'est peut-être indispensable que les athées s'organisent pour taper du poing sur les tables d'hôtel, comme j'écris dans le livre, et aller à la Chambre des députés, avoir des députés qui parlent au nom de l'athéisme. Mais là aussi, je parlais des chrétiens de gauche, la gauche a abandonné beaucoup de ses valeurs là-dessus, elle a abandonné beaucoup de ses discours, elle ne parle plus là-dessus, elle ne dit plus rien. L'athéisme est quand même quelque part une démarche de gauche en priorité.
Voilà, en sachant aussi que, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, les églises sont vides. Alors bon, ils essayent de les remplir avec, comment dire, une autre clientèle peut-être. Il faut rentabiliser ces bâtiments qu'on entretient à nos frais, parce que c'est bien gentil de dire que l'État français ne subventionne pas les cultes, mais l'entretien des bâtiments, ça coûte bonbon. Hein,
tu touches du doigt un problème qui fait un des chapitres du livre, voilà. C'est l'ambiguïté de la loi 1905 sur les financements, parce que c'est quand même les communes. Pour les cathédrales, c'est l'État, mais pour les villes, c'est les communes qui ont charge tous les bâtiments cultuels, qu'elles entretiennent. Les curés ne veulent pas qu'on y fasse de la musique s'ils ne veulent pas qu'on y aille. Les synagogues, on ne peut pas les visiter. Les mosquées, on ne peut pas les visiter. Les mosquées ne sont pas très financées parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas d'anciennes. Mais les synagogues, par exemple, tu ne rentres pas dans une synagogue pour la visiter. Or, c'est de l'argent public. Donc l'usage doit être public, quelque part. Argent public, usage public, et pas usage privé. Et donc il y a un détournement de la loi 1905 par le biais, alors par les monuments historiques encore plus, parce que les églises classées monuments historiques, c'est jusqu'à 50% de financement dans le bâtiment. Il y a un vrai problème politique. C'est vraiment un problème politique, l'athéisme, quelque part.
Et en plus, comme elles sont désertées, on a beaucoup de mal à les fermer. Il y en a qui protestent très fort. Enfin,
On entretient des églises inutiles.
Ah oui,
et dans lesquelles le public n'a pas le droit d'entrer parce que c'est le curé qui a la clé dans le village et qui ne veut pas qu'on vienne en chante dans son église pour faire des photos.
Après, il y a aussi des villages où on peut encore les visiter. Il faut bien que... Pour qu'il montre qu'il y ait du passage. Hein.
Cela dit, on peut aborder un autre sujet qui n'est pas dans le livre, c'est religion et culture, ce que la religion a apporté à l'art. Mais les artistes, c'est des clients. Les artistes, si on leur demande de peindre à nu, ils peignent à nu. Si on leur demande de peindre un Christ en croix, ils peignent un Christ en croix. Après, ils ont leurs croyances. Certains artistes sont mystiques. Mais ça, c'est un autre débat. Mais les églises sont aussi des lieux artistiques. Donc, c'est une propriété collective.
Exactement.
Donc, elles doivent avoir une propriété collective, un financement collectif, usage collectif. Ça, c'est un truc que j'explique dans le livre, parce que ça me tient... C'est une des limites, parce qu'on parle de la loi 1905, c'est une des limites aussi de la loi 1905 actuellement. L'autre limite étant qu'un culte tire tout l'argent de l'État avec la loi 1905, les autres cultes n'ont quasiment rien. Les synagogues, il n'y en a pas beaucoup, et les mosquées, alors là, pas du tout. Les temples protestants sont financés aussi, mais il y a une inégalité entre les religions en plus, par le biais du financement de la loi 1905. Mais d'ailleurs, c'est un débat un peu compliqué.
Juste pour revenir tout à l'heure par rapport à l'athéisme, mais on parlait de l'individualisme. Et effectivement, tu as cité deux sites, athéisme.org et athéisme.free. Ce sont des sites qui sont tenus... Bah, moi, je connais les deux personnes. Ils sont seuls, quoi. Ah, voilà, ils sont seuls.
C'est tenu à bout de bras
par... un peu anard sur les bords. Et puis, ils produisent de temps en temps quelques articles, des photos, un petit compte-rendu d'une cérémonie au Vatican ou autre. Et puis, voilà. Mais ils sont seuls. C'est un petit peu le problème d'Internet maintenant, où on peut faire croire sur un site bien géré que derrière, il y a du monde, alors qu'il n'y a qu'une seule personne. Mais là, c'est voulu, je veux dire, ça n'est pas pour se cacher. C'est le côté individualiste de certains athées. Quoi.
C'est la question fondamentale. Devons-nous, devons-nous nous organiser plus loin que la libre pensée, plus loin que ces organismes-là ? Est-ce qu'on doit envisager une représentation légale, politique, des athées en tant que force comme, alors là, l'athéisme devient une religion, autre ambiguïté, que les athées ne souhaitent pas. Les athées n'ont pas envie de se réunir en chantant avec une guitare le dimanche « je suis athée » comme le font les bedeaux et les curés.
Patrick, une petite remarque, puis après on passera, tu feras une petite pause musicale. Oui. Mais...
Je pense que ce que tu proposes, par exemple, avec créer un jour sans Dieu, bon, ça, c'est-à-dire avoir une place plus importante dans l'espace public. Ça me semble intéressant. Mais précisément, c'est une proposition qui devrait être faite aux organisations qui se réclament de l'athéisme pour unir nos forces. Et donc, ça va dans le sens de ton livre « Debout, les athées ».
Petite chanson.
Oui, petite chanson.
Les rien du toutiste, par exemple. Oui, parce qu'on dit « Debout, les athées », ça s'impose.
Dire d'un écrivain philosophe patenté, notre siècle sera religieux ou ne sera pas. Est-ce à dire que c'en est fait de nous pauvres athées, que c'est la fin des haricots pour ceux qui ne croient pas. Donc croire ou ne pas être tel serait la question. Pas d'existence possible en dehors des religions. Souhaitons que cette prophétie à la Nostradamus ne soit que divagation d'un aimable Olibrius. Debout, les athées de la terre, chantons ce refrain salutaire. Les temps sont venus pour te confesser notre foi en la libre pensée. Je dois très honnêtement vous avouer que la théologie n'est pas vraiment ma tasse de thé. Je ne crois ni au safrusquin ni au sacré mystère. Je crois que la vraie vie n'est pas au ciel mais sur la terre. Alors pourquoi, bon Dieu, accorder autant d'attention à ce qui n'est pour moi qu'une simple élucubration? C'est que trois fois, hélas, il semble de toute évidence que le bougre fait preuve d'une certaine clairvoyance. Debout, les athées de la terre, chantons ce refrain salutaire. Les temps sont venus pour nous te confesser notre foi en la libre pensée. Oui, n'en déplaise à l'auteur de la condition humaine, je prône la non-prolifération des catéchumènes. Oui, n'en déplaise à ce très honorable plumitif, sa prophétie me donne envie de m'arracher les tifs. Serait-il sain que le principe de laïcité n'ait plus droit de citer au sein de notre société? En matière de religion comme en toute autre chose, il ne faut pas négliger les dangers de l'overdose. Debout, les athées de la terre, chantons ce refrain salutaire. Les temps sont venus pour nous te confesser notre foi en la libre pensée. Combien de malheureux humiliés et persécutés par des religieux de tout poil en mal de sainteté. Combien de gâchés d'atteintes à la liberté au nom d'un Dieu d'amour, de justice et de vérité. Sont-ce les religions qui font la part trop belle aux cons, ou sont-ce les cons qui dénaturent les religions? Je crois avoir trouvé la réponse à ces deux questions, entre autres à la lueur des bûchers de l'Inquisition. Debout, les athées de la terre, refrain salutaire. Les temps sont venus pour te confesser notre foi en la libre pensée. Si les tenants de la foi se contentaient d'exister, s'ils pouvaient se dispenser de vouloir tout régenter, s'ils pouvaient s'abstenir de juger, de censurer, nous autres les athées, nous n'en aurions rien à cirer. Mais le souffle leur ayant donné l'omniscience, ils s'arrogent le droit de conditionner les consciences, revendiquent pour l'homme le droit de penser tout seul. C'est pas parce qu'on n'a pas la foi qu'il faut fermer sa gueule. Debout, les athées de la terre, chantons ce refrain salutaire. Les temps sont venus pour nous te confesser notre foi en la libre pensée. Ni catho, parpaillot, ni musulman, ni bouddhiste, nous sommes les sans foi, les sans dieu, les rien du toutiste. Les textes soi-disant sacrés, les saintes écritures, pour nous ne sont rien d'autre que de la littérature. Quant à vous qui avez la foi, priez qui vous voulez, grand Dieu, cela ne fera jamais de tort à personne. Mais je vous en supplie, tournez le dos aux allumés, aux intégristes qui, au nom de Dieu, nous empoisonnent. Debout, les gentils de la terre, restons unis comme des frères. Que l'on soit croyant ou que l'on soit athée, nom de Dieu, vive la liberté. Que l'on soit croyant ou que l'on soit athée, nom de Dieu, vive la liberté.
Vous écoutez Radio Campus Lille, vous venez d'entendre Michel Lebourg, les rien du toutiste, on parlait pas religion, on parlait athéisme.
La libre pensée, deux fois par an, réunit ses ouailles. Le 21 janvier, quoi, lors de la mort de Louis Capet, et le vendredi saint.
Pour un banquet gras contre ripailler. Les interdits religieux.
Je trouve que c'est un peu dommage que ce soit ces occasions-là qui soient choisies pour nous réunir, pour manger ensemble. Mais je trouve que ta proposition d'un jour sans Dieu serait beaucoup plus susceptible d'universalité. Quoi. Que ça se passe non seulement en France, mais à l'étranger. Donc je trouve ça tout à fait intéressant. Est-ce que tu peux un peu préciser ce que tu avais derrière la tête?
Oui, alors c'est une idée qui est venue avant le livre, en quelque sorte. Le livre a commencé par cette idée-là, parce que quand j'ai vu, en août 2012, toutes les manifestations des calotins et de Civitas et tous ces gens-là, et la manière dont il suffit d'allumer des bougies sur une place le soir pour avoir une photo dans le journal le lendemain,
et ils continuent.
Alors que les mêmes disent que les musulmans, c'est scandaleux qu'ils prient dans la rue, je me suis dit, il faut que les athées montrent qu'ils ont des couilles, qu'ils montrent qu'ils ont quelque chose dans le ventre, ils montrent qu'ils existent, et pour exister le plus simplement possible, c'est de faire la Java, comme on faisait en 68, parce qu'en 68, on faisait la fête, et on avait des idées qui circulaient, et les homosexuels l'ont très bien compris, la Gay Pride, c'est pas une organisation qui l'a organisée, c'est des tas d'organisations qui se sont fédérées, et qui ont fait la fête, et j'ai trouvé ça tellement efficace, parce que leur reconnaissance, elle est beaucoup venue de la Gay Pride. La Gay Pride, même si ça choque le bourgeois, même si ça fait rire, même si ça a fait énormément pour la représentation des homosexuels dans la société, pour leur intégration, pour la libération. Et si les athées se réunissaient simplement en disant, voilà, tel jour, pourquoi pas le vendredi consacré, ou n'importe quel jour, mais par réaction contre quelque chose, c'est peut-être pas bien. Il faut peut-être un jour d'été où il fait beau, la Saint-Jean, ou je sais pas quoi. On dit que la Saint-Jean, ça devient la fête des athées. On fait des feux, on fait la fête. Et puis c'est tout. Et ça montre que beaucoup de monde, ça peut faire sortir beaucoup de monde, et ça montre qu'il y a beaucoup de monde. Les athées sont quand même 40% de la société. C'est un chiffre qu'on oublie trop souvent. Et si on ajoute à ce chiffre-là le nombre de gens qui croient du bout des lèvres, ou qui croient parce que c'est l'habitude, ou parce qu'on les a baptisés de force, et qui s'en foutent royalement.
Ou qui vont pas à la messe.
Qui vont pas à la messe. Ceux qui sont sceptiques, ceux qui ont encore un bout de religion parce qu'ils ont la trouille, mais qui sont sceptiques, ça fait au moins 60% de la société. Les vrais religieux, c'est très peu. C'est très très peu. Les musulmans sont très peu nombreux en France. On en fait toute une affaire, on dit l'islamisation de la France, mais ils sont très peu nombreux. C'est parce qu'ils sont dans des ghettos qu'on les voit, c'est parce qu'ils sont dans des quartiers de ville. Et chez les musulmans, il y a plein de musulmans qui s'en foutent d'Allah comme de l'an 40. Donc c'est pour ça que si les athées en face montraient qu'ils étaient forts, peut-être que tous ces gens-là aussi basculeraient d'un athéisme mou à un vrai athéisme. Parce que l'athéisme, je crois, pour moi, doit être militant quelque part. Ce que vous êtes à la libre pensée, ce que sont ceux dans les sites dont on parlait tout à l'heure, les athées doivent être militants. Ils ne doivent pas avoir peur de dire qu'ils sont athées. Ils doivent pas, quand un témoin de Jéhovah vient leur baratiner chez eux, il faut le foutre dehors. Et les athées doivent être militants. Ils doivent se faire représenter. Ils doivent se montrer. Alors, on revient toujours à la question d'organisation, mais on peut très bien imaginer un jour sans Dieu, une fête spontanée. Ou le simple mot d'ordre, c'est dire, voilà, on est athée, on le montre et on fait la fête. On passe Michel Lebourg sur les haut-parleurs dans la rue. Et...
Voilà. Alors, j'ai un truc pour les témoins de Jéhovah. Vous leur dites que vous êtes communiste, ils s'enfuient en courant.
Oui,
c'est le meilleur truc.
Moi, j'ai fait l'expérience. Tu dis à un témoin de Jéhovah que t'es athée. Il fout le pied dans ta porte et il t'enquiquine pendant une heure. Tu lui dis, je suis juif, je suis bouddhiste, il te respecte. C'est extrêmement intéressant comme expérience.
Non, les communistes, ils ont peur, là.
Les communistes, ils ont peur.
Ouais, ça...
Mais est-ce qu'il y a encore des communistes athées?
Ça fait rien, ça leur fait peur.
Là aussi, on parlait tout à l'heure Jean-Yves parlait des cathos de gauche. Est-ce qu'il y a encore des communistes athées? Il y a surtout beaucoup de communistes qui viennent de la JOC, hein, de la jeunesse ouvrière catholique, et c'est vrai, là aussi. Et ça me fait penser à... une remarque qui est de Robert Trénaud du Canard enchaîné, hein, et donc il y a pas mal de temps, et où il disait il est loin le temps où on pouvait dire avant la guerre on était de droite avec l'Église et les patrons, on était de gauche laïque avec les ouvriers. Eh bien, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Maintenant, on ne sait plus très bien où est la limite, à la fois entre la gauche et la droite, entre les laïcs et les cléricaux, entre, je dirais presque, les patrons et les collaborateurs, comme on les appelle. On n'est plus des ouvriers, on est des collaborateurs.
Ah bah, c'est une grande soupe dans laquelle tout le monde touille, et puis il n'y a plus beaucoup d'odeur.
Bon, tu parlais évidemment d'une journée des athées. C'est vrai que la Libre Pensée a proposé une journée internationale de la Libre Pensée. Donc, le 20 septembre, d'essayer de faire une journée internationale de la Libre Pensée. C'est le 20 septembre, marque, je crois, Patrick, l'entrée de Garibaldi en Italie, et c'est le point de départ de l'unification italienne. Et donc il y avait une proposition de célébrer cette date du 20 septembre comme journée internationale de la libre pensée. Mais ce qui n'empêche qu'à côté, on peut avoir une journée de l'athéisme.
C'est très intéressant, ce qui est très important, que l'athéisme, la journée de l'athéisme, si ça existe, soit internationale tout de suite, comme le 1er mai l'était. Et il faut aider les Espagnols dans leur lutte pour l'avortement, il faut aider les Russes, ça doit être fondamentalement international. Il faut une internationale athée, comme il y a eu l'internationale situationniste ou l'internationale communiste. Il faut une internationale, il faut vraiment que le mouvement, sinon les attaques sont partout En Amérique, ils ont du mal, ils s'organisent, mais en Amérique, c'est un peu compliqué, la vie des athées dans un État où le président jure sur la Bible. Et comment le président, quand il sera musulman, jurera sur la Bible en Amérique? Ça, c'est une question. Et comment un président femme sera chanoine du Latran en France? Sans parler d'un président musulman ou juif, qui peut arriver, mais un président femme, comment il sera chanoine du Latran? Il a déjà la robe, on me dira. Mais...
La question est à poser à Marine Le Pen. Elle est bien partie pour l'instant, vu l'état de la France. Au diable Dieu, Brigitte Fontaine.
Excellent choix.
Au diable Dieu, 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 ce vieux martyr, roi des picots. Secte d'escrocs, de collaboniqueurs d'ado, brûleurs de vierges, lécheurs de cierges. Au diable Dieu, au diable Dieu, au diable Dieu, au diable Dieu, ce vieux grincheux. Sur un nuage disent les sages, ceux qui professent, disant des messes, de mirlitons que l'homme est son. Portrait craché, oh quel péché, au diable Dieu, au diable Dieu. Tueur de queue, son goupillon est un canon, et tous ses pâtres sont idolâtres, et son église n'est que traîtrise. Au diable Dieu, au diable Dieu, au diable Dieu. Mais s'il s'agit du grand ami, miséricordieux, ô vive Dieu, vive la vie, celle qui lui, dans les atomes de l'air du chrome, des misérables, des simples tables, au diable Dieu. Au diable Dieu, merde biblique, vive l'unique, merde biblique, au diable Dieu, au diable Dieu, au diable Dieu.
Vous écoutez Radio Campus Lille, vous avez reconnu Brigitte Fontaine, on l'entend très souvent. Alors, au diable Dieu, merde à... Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que c'est ça qu'il faut enseigner aux enfants, finalement, pour qu'ils... Ben, par rapport aux religions, est-ce que c'est ça qu'il faut leur enseigner, non?
Ben disons que Jean-Yves a le mérite d'aborder le problème, et il emploie carrément l'expression à la page 45, de protection des mineurs. Donc effectivement, s'il y a bien quelque chose de scandaleux pour un laïc, c'est l'embrigadement dès le berceau dans une religion. Et donc les laïcs ont pour objectif, qui a été gagné à un moment donné, qui est une éducation laïque gratuite pour tout gosse, de façon à ce que les enfants puissent recevoir les instruments intellectuels qui leur donnent capacité de juger des choix philosophiques, religieux, politiques des parents, et de prendre leurs propres options à l'issue de leur enseignement. Et donc, mais ceci ne résout pas néanmoins la confiscation mentale qui est tentée par les religions dès le berceau. Donc, est-ce que tu peux préciser ce que tu pensais dans ce domaine, Jean-Yves ?
Oui, préciser ce que je pense. C'est vrai que la religion, c'est un embrigadement dès le berceau, par des baptêmes, des actes qui sont quand même d'une certaine violence, parce qu'on va contre le corps des enfants dans certaines religions, mais contre l'esprit. Alors, les parents ont le droit de transmettre leurs valeurs, on ne va pas nier que les parents aient le droit de transmettre aux enfants, encore qu'on peut aussi réfléchir, on n'a pas le droit de frapper les enfants avec des martinets, est-ce qu'on a le droit de les frapper dans l'esprit avec une religion ? On m'a reproché d'avoir des passages un peu violents là-dessus, mais c'est vrai aussi que beaucoup de gens ont réussi à se libérer de la religion en étant intoxiqués. Mais quand on dit que l'Europe et la France ont des racines chrétiennes, une culture chrétienne, c'est un lavage de cerveau à grande échelle dès le berceau depuis 2000 ans. C'est quand même, on prend des enfants et on les formate pour la religion. Maintenant, c'est un petit peu moins vrai, mais il existe encore une anomalie dans ce pays. C'est un service privé de l'éducation, un service confessionnel. On dit école privée ou école libre, c'est pas ça, ça c'est une école confessionnelle. Donc il y a des lieux de non-droit dans ce pays où une religion a le droit de former ses enfants comme elle le veut, et non pas ce que voulaient Savary et Pierre Monroy, le grand service unique de l'éducation, où la religion, en ce moment-là, on enseigne la laïcité, on enseigne toutes les religions éventuellement. On peut aussi se poser la question de comment peut-on enseigner l'athéisme. C'est un peu plus compliqué d'expliquer quelque chose qui n'a pas de dogme, qui n'a pas de prêtre, qui n'a pas de structure. Ça, il faut passer par l'éducation des philosophes, mais ça se fait pas au berceau. À ce moment-là, l'athéisme peut s'enseigner que... Si, un athée peut toujours dire à ses enfants, quand t'es mort, tu t'en fous, tu seras mort, quand je suis mort, qui dit mieux, Chantigelin. L'athée a des moyens aussi de laisser ses enfants libres de réfléchir. Moi, mes enfants, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Donc, ils ont choisi en toute liberté quand ils étaient majeurs, et je leur ai rien enseigné. C'est une neutralité. Mais c'est vrai que l'enseignement des religions est quelque chose de quelque part insupportable. Qu'on puisse prendre l'esprit d'un enfant et le façonner comme on le fait, le formater, lui faire peur, parce que les religions, c'est la peur, les religions, c'est la violence, la religion, c'est le pouvoir. La religion, c'est quand même pas quelque chose de neutre et de simple. C'est pas comme la cuisine, c'est un peu plus... C'est une torture de l'esprit. On fout la trouille aux gens, c'est aussi des rapports sociaux, c'est aussi une structure sociale. La religion, dans cette région, a quand même exercé un contrôle social très puissant. Et si les patrons maîtrisaient les ouvriers, c'est parce que dès la naissance... On envoyait les enfants d'ouvriers au catéchisme et à l'église. Dans les corons, il y avait l'église au milieu. Au patronage, exactement. Dans les cités textiles, l'église était au milieu et les patrons construisent des églises. Avec l'argent qu'ils ont mis dans les églises, ils auraient pu améliorer les conditions de vie. Tout ça, c'est toujours une réflexion politique, quelque part. C'est fondamental Et on ne fait plus assez de politique dans ce pays. On ne fait plus assez de réflexion politique. Les athées n'en font pas assez, n'ont pas de présence assez politique. Et c'est tout. Et c'est vrai que le problème de l'école, le problème de l'enseignement, on dit qu'il y a des aumôneries dans les lycées. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal que dans le service public de l'éducation, un curé, un imam, puisse entrer et avoir un local à lui, payé avec les sous de l'État ? Enfin, c'est peut-être plus dans les locaux, c'est peut-être à l'extérieur maintenant, mais il y a des époques, c'était dans les locaux.
Oui, ça existe toujours.
Ça existe toujours. De toute façon, la loi de 1905 prévoit les aumôneries.
Les aumôneries, mais c'était pour les lieux fermés.
Le lieu de privation de liberté, comme on dit maintenant.
Oui, c'est-à-dire que quand les on hôpitaux, était dans un pensionnat, dans un hôpital...
Ou en prison.
ou en prison, donc on ne pouvait pas sortir pour aller à l'église, essentiellement l'église catholique à l'époque, et donc on faisait venir le culte par l'intermédiaire d'un prêtre ou d'un aumônier dans ces structures, pensionnats, internats, prisons et hôpitaux. Patrick, tu as une petite remarque, question, une citation éventuellement, parce que nous approchons de la fin du temps qui nous est imparti.
Moi, je trouve que ça mérite en tout cas d'être lu et que la discussion puisse se poursuivre, quoi. C'est tout à fait intéressant. Et donc, la meilleure recommandation que je puisse faire, c'est auditeur, n'hésitez pas.
Oui, donc je rappelle que le livre de Jean-Yves Méraud est disponible au Furet du Nord. Donc vous pourrez l'acheter pour la modique somme de 12 euros. Puis vous le trouverez sur les sites internet classiques.
Sans oublier le site de l'Harmattan.
Et le site de l'Harmattan, puisque c'est à l'Harmattan. Donc quand vous tapez, je rappelle bien, donc Debout les athées de la terre de Jean-Yves Méraud. Et vous, l'Harmattan, vous allez tomber sur le site et éventuellement sur d'autres sites qui le vendent également. Pour terminer, donc, notre président Marc Blondel, qui est décédé là au mois de mars, donc il nous a quittés, et avait dans le journal de la Libre Pensée, le mensuel national La Raison, avait écrit une petite note de lecture sur ce livre qui résume très bien. Alors, j'aimerais rappeler, puisque tout à l'heure tu parlais de l'athéisme, de l'individualisme des athées, Marc Blondel aimait à dire, puisqu'il était depuis 2007, il était président de la Fédération nationale de la libre pensée, aimait à dire « je suis le chef d'une association qui ne veut pas de chef ». Voilà, donc c'est un peu pour aller dans... Oui. Dans ton sens.
Hein. Oui, ce qui est paradoxal, c'est que je dis que l'athéisme, c'est un acte libertaire et individualiste, mais en même temps, je demande dans le bouquin que les athées se mobilisent, s'unissent et soient militants.
Voilà, donc c'est vrai. Il aimait à dire à chaque congrès, quand il était interviewé par les journalistes.
Je ne connaissais pas cette phrase.
Je suis le chef d'une association qui ne veut pas de chef. Voilà. Donc, Patrick va nous lire, pour terminer donc, cette émission, la note de lecture de Marc Blondel dans La Raison du mois de mars donc 2014, donc il y a deux mois.
Et avant de le lire, je rappelle que Marc Blondel était un bel exemple de la nécessité de l'organisation dans quelque domaine que ce soit. Lui avait choisi le mouvement ouvrier si on veut défendre les droits qui avaient été conquis de haute lutte par les organisations ouvrières.
Et il faudrait qu'on qu'on les reconquérisse, parce que
voilà, exactement.
C'est gravissime en ce moment.
Tout à fait.
Et un de ces mots aussi, c'était « soyez rebelles ». Voilà.
Donc voici la note qu'il a rédigée à propos du livre de Jean-Yves Méraud, « Debout les athées de la terre ». Et en la lisant, c'était en même temps, de notre part, les libres penseurs du Nord, un hommage à Marc Blondel, qui a fait son travail de chef tout en se gardant du terme. Si j'en crois, donc voilà la lettre, si j'en crois la lettre qui accompagnait le livret de 90 pages de Jean-Yves Méraud, celui-ci s'adresserait aux mécréants dont il m'honore d'être un représentant. Je dois avouer que l'esprit provocateur du titre « Debout les athées de la terre » résonne dans la tête des militants laïcs. Par sa dimension internationale, on aura compris, en revendiquant une place légale pour l'athéisme dans notre société, ce dernier analyse les obscurantismes, les soumissions, l'esprit de guerre des religions et dénonce les faiblesses, que dis-je, les complaisances par lesquelles les gouvernements, dans notre pays considéré comme le plus laïque, gangrène notre République. L'auteur, élevé dans la religion catholique, sait ce dont il parle. Devenu athée, il sera journaliste à La Voix du Nord, après un passage dans l'enseignement. Il quittera ce journal pour clause de conscience, ce qui marque un tempérament rebelle. Son livre est un plaidoyer de l'athéisme qu'il honore par son côté pacifiste et libre penseur. Bien entendu, il ouvrira un débat. La reconnaissance est-ce qualité de l'athéisme, pouvant conduire au pilarisme, et dans le plus mauvais des cas, à l'athéisme d'État, éventualité qu'il conteste. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler, à lire par les libres penseurs, les athées et ceux qui hésitent encore, tout en sachant que nous serions déjà numériquement majoritaires. Voilà, Marc Blondel, merci Jean-Yves.
Merci.
Merci, à bientôt, au revoir. Et on va vous quitter
en chanson.
Une chanson de Laïs, Grand Jacques.
Laïs est un groupe, un groupe de voix flamandes.
Donc Laïs interprétant Grand Jacques, c'est trop facile.
C'est trop facile d'entrer aux églises, de déverser toutes ces saletés face au curé qui dans la lumière grise ferme les yeux pour mieux nous pardonner. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu du bon Dieu? Un cantique, une image, tu n'en connais rien de mieux. C'est trop facile quand les guerres sont finies d'aller gueuler que c'était la dernière. Amis bourgeois, vous me faites envie. Vous ne voyez donc point vos cimetières. Tais-toi donc, grand Jacques, et laissez-les donc crier. Laissez-les pleurer de joie, toi qui ne fus même pas soldat. C'est trop facile quand un amour se meurt, qu'il craque en deux parce qu'on l'a trop plié, d'aller pleurer comme les hommes pleurent, comme si l'amour durait l'éternité. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu de l'amour, des yeux bleus, des cheveux fous, tu n'y connais rien du tout. Et dis-toi donc, grand Jacques, dis-le-toi bien souvent, c'est trop facile, c'est trop facile de faire semblant.
Ayant tout bonnement pris mes distances vis-à-vis de mes anciennes croyances, étant à tout le moins des plus sceptiques, j'ai mis un terme à mes élans mystiques. Si j'ai rendu à Dieu mon tablier et pris ma carte au parti des athées, maintenant j'ai mon petit truc en plus, ma nouvelle paroisse c'est Radio Campus.